Europe 1, il est midi.
Europe Midi, Raphaël Delvolvé.
Bonjour à tous, merci de votre fidélité à Europe 1. L'information vient d'être confirmée par le service des sports d'Europe 1. Un accord de principe a été trouvé entre le PSG et Zinedine Zidane. Il va probablement entraîner le Paris Saint-Germain la saison prochaine. Nous en parlons plus en détail dans quelques minutes. La politique au programme d'Europe Midi également. Les derniers déplacements, les derniers meetings aujourd'hui avant le silence électoral et le premier tour des élections législatives. C'est dimanche. L'abstention menace les scrutins. Nous en parlons aujourd'hui avec notre invité, le journaliste de Marianne, Louis Osalter. Vos questions, vos réactions au 39-21, Louis Osalter, dont nous parlerons également du livre qu'il coécrit, L'étrange victoire, autopsie de la campagne victorieuse d'Emmanuel Macron à la dernière présidentielle, qui lui prépare déjà la suite, l'après-législative. Il évoque en ce moment à l'Élysée ses grandes réformes, son Conseil national de la refondation avec les syndicats. Et puis à suivre également le début du procès du violeur de la Sambre cet après-midi à Douai, un homme accusé d'avoir agressé ou violé 56 victimes entre 1988 et 2018. Alerte sécheresse sur une grande partie de la France, ça touche aussi bien la Bretagne que les Bouches-du-Rhône. Le casse-tête de l'inflation s'invite dans les cantines scolaires et puis nous reparlerons de football à la fin du journal. Car oui, Zidane va probablement débarquer au PSG, mais les Bleus, l'équipe de France, joue ce soir contre l'Autriche. Europe 1 est à Vienne. On commence donc avec cette information qui vient de nous être confirmée par le service des sports d'Europe 1. Un accord de principe a été trouvé entre le Paris Saint-Germain et Zinedine Zidane. Bonjour Jean-François Pérez.
Bonjour Raphaël, bonjour à tous.
Alors il y a donc cet accord.
Oui, c'est deux sources nous confirment en effet qu'un accord a été trouvé entre Zinedine Zidane et le Paris Saint-Germain pour que l'ancienne star française, Ballon d'Or 1998, ancien entraîneur du Real Madrid également, devienne le nouvel entraîneur du PSG dès les prochains jours. Zinedine Zidane qui est en chemin ou qui se trouve déjà apparemment au Qatar pour régler les derniers détails de ce contrat qui n'est pas encore signé. Donc c'est pour ça que ce n'est pas officiel et ce n'est pas encore signé. Mais oui, en effet, accord entre Zinedine Zidane et le Paris Saint-Germain, les nouveaux dirigeants et la nouvelle équipe dirigeante notamment du Paris Saint-Germain. Notez tout de même que dans ce dossier où il y a, évidemment, vous comprenez l'intérêt énorme de ce dossier Zidane au PSG, il y a un épais écran de fumée et du côté de l'entourage de Zinedine Zidane, pour l'instant, on se refuse à confirmer cette information. Mais les deux sources que nous avons sont catégoriques. L'accord est trouvé entre Zidane et le PSG.
Voilà, c'est ça. L'accord de principe a donc été trouvé et il signe le retour aux affaires de Zizou.
Et si ça se confirme, oui. Alors, on l'avait laissé entraîneur du Real Madrid avec ses trois Ligues des Champions gagnées d'affilée. Et depuis ce temps, il attendait en fait le poste de sélectionneur d'équipe de France. Je pense que c'est un secret de polichinelle, mais ce poste de sélectionneur des Bleus, il est tenu par Didier Deschamps, et bien tenu. Deschamps prépare la Coupe du Monde. Et apparemment, les choses ne semblaient pas suffisamment claires pour Zinedine Zidane, qui a souhaité, à un moment donné, un petit peu couper le cordon ombilical et s'orienter vers un autre projet, celui d'un club. Manifestement, le Qatar s'est montré convaincant. Et voilà où nous nous retrouvons aujourd'hui à midi avec cet accord Zidane-PSG.
Merci Jean-François Pérez, chef du service des sports d'Europe 1, qui nous livre donc cette information que je vous répète si vous nous rejoignez à l'instant. Un accord de principe a été trouvé entre Zinedine Zidane et le Paris Saint-Germain.
Raphaël Delvolvé sur Europe 1.
Dernier jour de campagne pour les élections législatives aujourd'hui et Emmanuel Macron prépare déjà l'après. Il invite les syndicats à déjeuner aujourd'hui à l'Élysée. Le menu est copieux. Le président veut parler avec eux de la réforme des retraites, ce recul de l'âge légal de départ qu'il entend faire passer à 65 ans et surtout faire entrer en vigueur la réforme dès l'été 2023. Les syndicats également appelés à participer au fameux Conseil national de la refondation. Bonjour Jacques Serret.
Bonjour.
Jacques, tout le monde syndical ne sera pas à l'Élysée tout à l'heure. Le patron de la CGT a décliné l'invitation.
Oui, Philippe Martinez estime que ce rendez-vous ressemble à un déjeuner de campagne. En revanche, la CFDT, Force Ouvrière, la CFE-CGC et la CFTC ont répondu présents pour cette première rencontre d'Emmanuel Macron avec les dirigeants syndicaux depuis sa réélection. Mardi prochain, ce sera en principe au tour des dirigeants patronaux d'être reçus à l'Élysée pour discuter de ce Conseil national de la refondation. Avec ces réunions, le chef de l'État veut prouver qu'il n'a plus l'intention de contourner les corps intermédiaires. Et si qu'il est pour l'instant difficile de saisir comment ce CNR articulera ses travaux. Quelques noms sont déjà cités pour en prendre la présidence, ceux de Jean-Louis Borloo, Jean Castex et de Catherine Vautrin. Toujours est-il qu'Emmanuel Macron, qui effectue là sa première rencontre avec les dirigeants syndicaux depuis sa réélection, à deux jours du premier tour des législatives.
Les législatives pour lesquelles on craint une forte abstention. Les sondages parlent de 52 à 56%.
Oui, moins d'un électeur sur deux se dit aujourd'hui sûr d'aller voter dimanche. Une certitude en cette fin de campagne, cette élection peine à intéresser les Français. La question désormais, c'est qui va profiter de cette potentielle très forte abstention. Si les 18-24 ans ont voté à 36% pour Jean-Luc Mélenchon au premier tour de la présidentielle, ce sont aussi ceux qui ont le plus tendance à s'abstenir. Quand les électeurs plus âgés qui votent davantage pour Emmanuel Macron s'abstiennent généralement moins. Définitivement, la participation sera la clé de ce premier tour. Pour rappel, pour se qualifier au second tour, les candidats doivent obtenir un nombre de voix égal à 12,5% des inscrits sur les listes électorales. Il devrait donc y avoir peu de triangulaires ou quadrangulaires le 19 juin.
Merci Jacques Serret du service politique d'Europe 1. De son côté, la première ministre Elisabeth Borne, jamais élue, mais candidate aux législatives, fait un nouveau déplacement dans la circonscription où elle se présente aujourd'hui, dans le Calvados. Et puis Jean-Luc Mélenchon, pas candidat, mais qui se rêve en premier ministre de cohabitation, lui fait un dernier déplacement à Marseille, dont il est encore pour quelques jours l'un des députés. L'actualité judiciaire maintenant. La fin du réquisitoire aujourd'hui au procès des attaques du 13 novembre. Il a fallu trois jours au parquet national antiterroriste pour le lire en intégralité. Nous allons savoir dans l'après-midi les peines retenues contre les 20 accusés, dont Salah Abdeslam. Le verdict sera rendu à la fin du mois, en principe. Nous y reviendrons évidemment ce soir sur Europe 1. Pour l'heure, allons à la cour d'assises de Douai, dans le Nord, avec le début cet après-midi d'un procès, celui de Dino Scala, alias le violeur de la Sambre. En apparence, un père de famille, le président d'un petit club de football, mais ce monsieur tout le monde est en réalité accusé de viol ou d'agression sexuelle perpétrée pendant 30 ans sur 56 victimes dans la région de Maubeuge. Lionel Gougelot, vous suivez le procès pour Europe 1. Les victimes nombreuses vont donc faire face à leur agresseur pendant près de 3 semaines.
Oui, effectivement, Raphaël. Et parmi toutes ces femmes, il y a Michel, agressé en 2002. Cet employé de la ville de Louvroil m'avait raconté, après l'arrestation de Dino Scala en 2018, le mode opératoire de cet homme qui surprenait ses proies par derrière dans des endroits isolés dans la pénombre des petits matins d'hiver. Ce jour-là, elle avait été violencée dans la salle de sport où elle prenait son service.
Il m'a coupé la respiration, puis il m'a mis le couteau sur la gorge. Et il m'a dit, ferme ta gueule, sinon je te tue. Après, il m'a dit, remets-toi sur ton dos. Puis il m'a dit à l'oreille, j'ai fait de la prison, j'ai plus de femme, il faut que j'aie une femme, tout. Qu'est-ce que je peux faire? Je savais plus.
L'agresseur sera mis en fuite par l'arrivée d'une collègue. Et c'est 16 ans plus tard que Michel découvrira son profil. Côté face, un père de famille au-dessus de tout soupçon, citoyen modèle. Côté pile, un véritable chasseur de femmes, pulsionnel, insaisissable et très organisé, selon Tamara Lejuste, l'une des avocates de la partie civile.
C'est un prédateur qui a fondu sur ses proies, avec son mode opératoire bien construit, avec ses petites habitudes, et puis cette montée en puissance au fur et à mesure des années. Quand on voit qu'il s'est permis d'agresser des personnes à 200 mètres d'un commissariat de police, on se demande ce qui pouvait l'arrêter à ce moment-là.
C'est finalement une vidéosurveillance en Belgique lors d'une des dernières agressions qui permettra de l'identifier. Devant les enquêteurs, Scala se dira soulagé d'être mis hors d'état de nuire, regrettant de ne pas s'être fait soigner plus tôt.
Lionel Gougelot à la cour d'assises de Douai. Merci Lionel. Revenons maintenant sur cette affaire. Elle nous a tous heurtés hier. Cette adolescente de 13 ans retrouvée morte à Clessé en Saône-et-Loire. Le petit ami de 14 ans a avoué hier pendant sa garde à vue l'avoir étranglée et lardée de coups de couteau. Jean-Luc Boujon à Clessé. Aujourd'hui, c'est l'effroi, la stupéfaction.
Absolument, on est le jour d'après et le petit village de Clessé, de 850 habitants, ne se remet pas du décès brutal et violent de cette toute jeune fille de 13 ans, une collégienne que tout le monde connaissait ici, tout comme sa famille, que le maire de la commune, Jean-Pierre Chervier, est allé réconforter ce matin.
J'ai rencontré la famille ce matin. Elle est perdue, cette famille. C'est très dur pour elle.
Comment ils expliquent ce qui a pu se passer? Ils savaient la relation qu'elle entretenait avec ce garçon?
Oui, ils savaient, mais ils pensaient que ça s'était arrêté. Et donc, ils ne savaient pas que ça avait repris. Ils sont dévastés, complètement, complètement dévastés. En plus, c'est une fille unique, alors. Lui, il est complètement anéanti.
Son petit ami, un garçon de 14 ans qui était dans sa classe de 4e, a donc avoué l'avoir tué hier au cours de sa garde à vue. Un garçon qui habitait Viré, le village d'à côté. Il n'avait jamais fait parler de lui jusque-là. Il n'était par exemple pas connu des services de police. Mais Cathy, une habitante, sait qu'il menait la vie dure à sa petite amie.
C'est un garçon qui était un peu menaçant avec cette jeune fille et qui était sorti avec elle, qui s'était séparé. Il voulait absolument la revoir alors qu'ils étaient séparés. Elle n'était pas trop d'accord pour continuer la relation. Je pense que c'était un amour qui n'était pas partagé. Et entre nous, entre copines, on parle vraiment d'un féminicide. Même si c'est un très jeune âge, ils avaient un lien amoureux, c'est un féminicide.
Le garçon qui a expliqué en garde à vue avoir lui-même été victime de violences de la part de son père en début d'année, il est toujours en garde à vue à l'heure qu'il est et pourrait être présenté à un juge dans le courant de l'après-midi ou en fin de journée.
Merci Jean-Luc. Jean-Luc Boujon, juste après une courte pause, nous parlons de l'inflation. 5,2% sur un an, ça se ressent partout. Vous le sentez quand vous allez faire votre plein d'essence, quand vous allez payer vos courses au supermarché. Mais aussi, peut-être l'avez-vous déjà constaté, ça se ressent dans les cantines de nos enfants. Explication juste après ça. Restez avec nous sur Europe.
Europe Midi. Raphaël Delvolvé.
De retour sur Europe 1, allez-vous voter aux législatives dimanche? Dites-nous au 39-21, nous en parlerons juste après le journal avec le journaliste de Marianne, Louis Osalter. Pour l'heure, nous évoquons notre principale source d'inquiétude, notre pouvoir d'achat mis à rude épreuve par une inflation record, en tout cas plus vue depuis 35 ans en France. Le carburant augmente, mais aussi l'alimentation, et ça se répercute directement sur nos enfants. Les cantines scolaires vont faire face à la rentrée prochaine à des factures exorbitantes. Les pâtes ont pris 40% en un an, 25% pour le steak haché. Geoffrey Branger, bonjour.
Bonjour Raphaël, bonjour à tous.
Alors les collectivités locales qui gèrent les cantines s'organisent pour la rentrée prochaine. Quelles sont les pistes à l'étude ?
Alors les solutions sont multiples hein, et pour certaines villes, la ligne à ne surtout pas franchir, c'est l'augmentation des tarifs pour les ménages. À Libourne, par exemple, en Gironde, la mairie dépense pour ses 15 écoles plus de 500 000 euros par an. Cette année, la facture devrait grimper de 10 à 30%. Thierry Marty, l'adjoint délégué à l'éducation.
Il y a un choix politique, en fait, qui est de ne pas faire supporter aux familles cette hausse de prix. Et donc, du coup, nous, on fait le choix de l'absorber avec le budget de la ville.
Alors, toutes les municipalités n'ont pas les moyens d'absorber ces surcoûts. Selon l'Association des maires de France, la moitié des communes devront augmenter leurs tarifs. C'est le cas à Cabarrieux, en Charente-Maritime, 1400 habitants. En septembre, eh bien là-bas, chaque repas coûtera 30 centimes de plus, soit 6 euros par mois.
Et dans d'autres villes, d'autres options sont envisagées, Geoffrey.
Oui, à Bayeux, dans le Calvados, la mairie cherche par tous les moyens à réduire le coût des repas. Arnaud Tanquerel est le vice-président de la communauté de communes déléguée à l'enseignement.
On a une cuisine centrale qui permet de travailler des produits locaux, des produits aussi issus de notre jardin permacole qu'on a mis en place il y a un an et demi. Et puis on travaille aussi beaucoup avec les enfants sur le gâchis alimentaire. Donc il y a des pesées qui sont faites tous les jours sur nos quantités de déchets jetés. Et donc on préfère faire cette économie sur les rations.
Et la ville a également signé des contrats à l'année avec les producteurs locaux pour ne plus dépendre autant de l'évolution des prix.
Merci les précisions de Geoffrey Branger. L'été n'a pas commencé et la chaleur s'invite déjà et menace une grande partie de la France de sécheresse. Tiens, deux exemples. L'île de Groix en Bretagne est en crise sécheresse. Plus droit d'arroser son potager notamment. Et puis hier, dans le sud-est de l'Hexagone, les massifs du Var et des Bouches-du-Rhône étaient interdits d'accès face au risque d'incendie. Bonjour Louise Salé.
Bonjour.
Alors quand on regarde votre carte des restrictions d'eau. C'est une diagonale de chaleur qui traverse l'Hexagone. Elle part du nord-ouest et finit sa course au sud-est.
Et oui, elle commence en Bretagne, vous l'avez dit, et elle traverse les pays de la Loire, le Poitou, la Charente, le Massif central, pour finir dans la vallée du Rhône et en région PACA. 33 départements sont soumis à des restrictions d'eau plus ou moins sévères. Cela va d'une simple interdiction d'arroser son jardin à certaines heures à celle carrément d'utiliser de l'eau pour l'agriculture. Et à ce stade de l'année, ça n'augure rien de bon, avertit l'hydrologue Emma Aziza.
Ça nous permet d'avoir une vision à long terme pour pouvoir essayer de comprendre comment va se développer la sécheresse. Maintenant, pour réussir à lutter contre la sécheresse, il faut s'y prendre plusieurs années à l'avance pour reconvertir les territoires sur le plan agricole ou encore au niveau des villes. Et donc ça ne peut pas se jouer en l'espace de quelques mois, puisque cette année, c'est déjà trop tard et finalement, les jeux sont faits.
Si un territoire est aujourd'hui soumis à des restrictions d'eau, c'est à cause de plusieurs facteurs, parce que ses sols sont trop secs, parce que le déficit de pluie est inquiétant parce que les réserves de ces nappes sont basses et aussi parce que ses besoins en eau sont habituellement importants pour l'agriculture, le jardinage, les piscines ou encore l'industrie.
Merci Louise Salé. D'ailleurs, je vous invite à consulter notre carte de cette vague de chaleur, de sécheresse qui touche l'Hexagone. Elle est disponible sur notre site www.europe1.fr. Un mot de l'étranger avant de passer au football. Donald Trump réagit aujourd'hui et dénonce une chasse au sort sorcières sur les réseaux sociaux. Il réagit aux premières conclusions de la commission d'enquête du 6 janvier, l'assaut du Capitole par des militants trumpistes. Les 9 membres de la commission estiment que l'ancien président a joué un rôle central dans l'invasion du Capitole. À Vienne, les Bleus sont présents pour affronter l'Autriche ce soir pour le compte de la 3e journée de la Ligue des Nations. Ce sera à vivre dans Europe 1 Sport dès 20h avec notamment Cyril de la Morinerie. Bonjour Cyril.
Bonjour à tous.
Cyril, les Bleus doivent gagner après 2 matchs sans victoire.
Oui, d'abord parce que les Bleus ont un statut à faire respecter, ils sont champions du monde. Ensuite, eh bien, ils doivent préparer cette Coupe du Monde prévue dans un peu plus de 5 mois. Il est important d'engranger de confiance. Et puis surtout, eh bien, les hommes de Didier Deschamps ont un titre à défendre, la Ligue des Nations, qu'ils ont remporté en Italie en octobre dernier. Aujourd'hui, les Français sont 3e de leur groupe et sont même menacés de relégation en Ligue B avec, eh bien, ce serait des équipes beaucoup moins prestigieuses. La France doit donc rebondir, confirme le capitaine Hugo Lloris.
On se trouve un petit peu dos au mur dans cette phase de groupe. Alors même si ça n'enlève pas les bonnes choses qu'on a pu faire lors de ces deux rencontres, on est en déficit de points, surtout lorsqu'on a un adversaire comme le Danemark qui a déjà pris 6 points. On est dans l'obligation de prendre les 3 points si on veut espérer encore se qualifier pour la suite de cette compétition.
Les Français qui n'ont plus gagné depuis 1993 en Autriche doivent se méfier des Rouges et Blancs, une équipe qui a battu récemment la Croatie, emmenée notamment par son défenseur, les défenseurs du Real Madrid, David Alaba. Mais Didier Deschamps va procéder à une nouvelle salve de changements dans l'équipe de départ, sans doute sans Mbappé et Kanté qui sont incertains ni Rabiot, mais les Bleus pourront compter sur l'un de leurs tauliers aux 5 Ligues des Champions, un certain Karim Benzema, qui avait fêté sa première sélection en Autriche en marquant son premier but il y a près de 15 ans.
Benzema, 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 Benzema.
Merci Benzema, Cyril Benzema, de la Morinerie, que nous retrouverons donc ce soir pour cette Autriche-France en Ligue des Nations. Tiens, je vous rappelle cette information que nous donne le service des sports d'Europe 1. Un accord de principe a été trouvé entre Zinedine Zidane et le Paris Saint-Germain. Il est maintenant très probable que Zizou entraîne le PSG la saison prochaine. Allez, la météo, Anissa Haddadi, ça se dégage au nord de la Loire.
Oui, le soleil se montre un peu plus. C'est vrai qu'il faut bien le noter, Raphaël, vous avez raison. Sur les Pays de la Loire et les Hauts-de-France, il y aura quelques éclaircies. Le ciel reste tout de même couvert au bord de la Manche entre la Bretagne et le Pas-de-Calais, mais il y aura moins d'averses que ce matin. Les nuages ont vraiment du mal à se dissiper dans le nord-ouest. Ça ira mieux dans les prochains jours. Partout ailleurs, bien comme ce matin, le soleil brille dans un ciel quasiment totalement dégagé. La journée est belle, estivale, avec tout de même du vent Mistral et Tramontane au bord de la Méditerranée qui souffle jusqu'à 80 km. Les températures, grosse différence entre le nord et le sud. Hein. 19 à Brest, 21 à Quimper, 23 à Paris et Caen, 25 pour Blois et Saint-Etienne, 27 à Bordeaux et Lyon, 30 à Marseille et jusqu'à 33 à Montpellier.
Merci Anissa Haddadi. Dans la prochaine partie d'Europe Midi, nous serons avec Louise Osalter qui publie l'étrange victoire autopsie de la campagne présidentielle d'Emmanuel Macron. Alexandre Chauveau du service politique d'Europe 1 sera également avec moi. Restez avec nous sur Europe.
Europe Midi, Raphaël Delvolvé.
De retour sur Europe 1, allez-vous voter dimanche pour le premier tour des élections législatives? Dites-nous au 39-21, on prend vos questions, vos réactions dans la dernière partie d'Europe Midi. Nous en parlerons avec Alexandre Chauveau du service politique d'Europe 1 que j'accueille. Bonjour Alexandre.
Bonjour Raphaël, bonjour à tous.
Et avec notre invité aujourd'hui, bonjour Louis Osalter.
Bonjour Raphaël.
Vous êtes journaliste à Marianne et vous co-signez avec votre consoeur de BFM TV, Agathe Lambret, l'étrange victoire, récit d'une réélection singulière, d'une présidentielle remportée par un homme contraint de ne pas faire campagne ou en tout cas de composer avec l'inattendu Emmanuel Macron. Le livre démarre début février 2022 sur la place rouge de Moscou et s'achève sur le Champ de Mars de Paris début avril 2022. Un soir où personne ne respire vraiment, où la foule fait une victoire presque embarrassée. Emmanuel Macron n'a pas réussi à réconcilier les Français, écrivez-vous. 42% des Français ont voté Marine Le Pen. Mais pourtant, Emmanuel Macron a réalisé l'inédit, une réélection hors cohabitation sous la Ve République. Alors de ce qu'on comprend dans votre livre, Louis Osalter, c'est qu'Emmanuel Macron a été gagné par le doute, l'émergence au départ fulgurante de Valérie Pécresse, la percée d'Éric Zemmour. Finalement, tout ça a été éteint par un meeting désastreux pour la première, par la guerre en Ukraine pour le second. Quant à Marine Le Pen, elle ne constituait pas vraiment une menace. Est-ce que par étrange victoire, vous n'entendez pas en fait victoire par défaut, Louis Osalter?
Un petit peu, si ce sont à la fois les
les modalités et puis les contraintes de cette campagne qui font que c'est une étrange victoire. Étrange campagne, déjà, drôle de campagne, à cause de la guerre en Ukraine, à cause du Covid avant ça, et donc la contrainte des événements qui relègue la campagne présidentielle au second plan, une campagne qui n'a pas beaucoup intéressé les gens, et puis qui contraint aussi le président dans son agenda. Donc, drôle de campagne. Et puis, il y a le grand paradoxe de cette victoire, c'est-à-dire qu'Emmanuel Macron réussit un authentique exploit. C'est le premier président qui est réélu depuis le système du quinquennat. Personne n'a réussi avant lui, hors les cohabitations qu'on a connues avant le quinquennat et l'inversion du calendrier
François Mitterrand,
électoral. Exactement, mais ni Nicolas Sarkozy, ni François Hollande. Et en même temps, une réélection sans aucun triomphe. C'est-à-dire qu'au Champ de Mars, si vous vous souvenez, le 24 avril, Emmanuel Macron ne célèbre pas sa victoire. Il en prend acte, il fait un discours...
Il est mal à l'aise presque,
oui,
à vous dire.
Oui, presque. Il est un discours très peu inspiré, vraiment un discours court et peu inspiré. Et puis après, bon, il fait un mini bain de foule et puis il s'en va avec son épouse Brigitte à la Lanterne, la résidence de campagne des présidents. Et puis c'est tout. Et ensuite, il enchaîne avec ce second quinquennat qui commence en plus un peu dans le brouillard parce que Emmanuel Macron n'a pas pris part à la campagne législative jusqu'à
hier,
en fait, on va être clair. Il a mis du temps à nommer une première ministre puis un gouvernement. Il annonce un Conseil national de la refondation qui sort un peu nulle part, qui n'était pas dans le programme. Programme, au passage, que pas grand monde n'a lu parce que ce n'est pas ce qui a passionné les foules, les thématiques de campagne pendant la présidentielle. Donc, il y a tout ce paradoxe, quoi. À la fois un exploit et en même temps ce sentiment de victoire étrange parce que non triomphale et parce que prémisse d'un quinquennat qui s'annonce très difficile.
Alexandre Chauveau.
Vous le dites très bien, il n'a quasiment pas fait campagne. Il a fait traîner la campagne des législatives après sa réélection. À quoi il faut s'attendre avec ce nouveau quinquennat ? Est-ce qu'il sera plus dur que le premier, où il a pourtant connu des crises extraordinaires ?
Tout à fait. On raconte d'ailleurs, parce qu'on fait plusieurs flashbacks sur le quinquennat dans ce livre, on raconte à quel point les Gilets jaunes ont traumatisé Emmanuel Macron, y compris physiquement.
Il a eu peur.
Il a confié à des proches, dans des quelques moments, rares moments d'abandon, qu'il avait vraiment peur qu'on le tue, lui et Brigitte Macron. Et du coup, il est traumatisé par ça. Et c'est en cela, à mon avis, qu'il faut chercher l'explication des efforts qu'il fait pour... afficher une envie de concertation. Aujourd'hui, par exemple, il reçoit les syndicats pour leur parler de ce fameux Conseil national de la refondation. Donc, le changement de méthode qu'il a promis, il essaie de l'incarner comme ça parce qu'il a conscience qu'avoir démarré son premier quinquennat de manière trop verticale, il l'a payé très cher. Il a payé cash avec la crise des Gilets jaunes et une espèce de rupture entre une partie du peuple et lui. Et en même temps, j'allais dire, on ne se refait pas. C'est-à-dire que le livre, c'est aussi un moyen de voir comment Emmanuel Macron fonctionne avec un écosystème. On va peut-être en parler, mais des entourages différents qui sont rivaux. Et ça va demeurer en fait dans son mode de fonctionnement parce que c'est lui, parce que c'est son caractère, parce que c'est aussi un moyen que beaucoup de présidents ont eu de à la fois cloisonner, se protéger, se laisser plusieurs options. Mais on est en 5e République et la dernière décision, elle se prend seule, elle continuera à se prendre seul. Donc ça ne va pas changer sous ce second mandat.
Oui, parce que Louis Osalter, vous signez un livre politique, mais qui est aussi un peu biographique. On va en parler dans quelques instants dans Europe Midi. Une petite pause et on revient.
Europe Midi. Raphaël Delvolvé.
Louis Osalter est notre invité dans Europe Midi aujourd'hui. Il nous raconte dans un livre publié aux éditions de l'Observatoire l'étrange victoire, la dernière campagne victorieuse d'Emmanuel Macron à la présidentielle. Nous évoquions les traits de personnalité d'Emmanuel Macron. On y revient dans quelques instants, mais juste avant, le rappel de l'actualité avec Océane Théard. Bonjour Océane.
Bonjour Raphaël, bonjour à toutes et à tous. Une arrivée fracassante au PSG, c'est une information Europe 1. Un accord de principe entre Zinedine Zidane et le Paris Saint-Germain a été conclu. Il serait en bonne voie pour devenir le prochain entraîneur du club parisien. La star française succéderait donc à Mauricio Pochettino. Les syndicats des jeunes à l'Élysée, Emmanuel Macron a convié les 5 principales organisations syndicales à 2 jours du premier tour des élections législatives. Au programme, la réforme des retraites ou encore l'inflation. Le secrétaire général de la CGT, Philippe Martinez, a décliné l'invitation. Fin de campagne, ce soir avant le premier tour des législatives, ce dimanche, une mobilisation menée de front par le président de la République qui a demandé hier une majorité forte et claire aux Français. Une élection qui devrait être marquée cette année encore par une abstention record entre 52 et 56%. Quelle peine requise à l'encontre de Salah Abdeslam et des 19 autres accusés. Le parquet national antiterroriste termine aujourd'hui son réquisitoire dans le procès du 13 novembre. 12 des 20 accusés risquent la prison à perpétuité. Le verdict du procès est attendu fin juin. 30 ans de viol et d'agression sexuelle, plus de 50 victimes. Le procès de Dino Scala est jugé à partir de 14h aux assises de Douai dans le Nord. Arrêté en 2018, ce mari et père de famille surnommé le violeur de la Sambre risque 20 ans de prison. Le procès doit durer près de 3 semaines. L'heure de vérité pour les Bleus, ce soir, troisième match de la Ligue des Nations de football. L'équipe de Didier Deschamps affronte l'Autriche à Vienne ce soir. Un match à retrouver en direct et en intégralité à partir de 20h sur Europe 1 Sport.
Merci au CNTR qui vous accompagne, vous informe toute la journée sur Europe 1.
Raphaël Delvolvé sur Europe 1.
Louis Osalter, co-auteur plutôt, merci à vous, de L'étrange victoire, le récit de la dernière campagne présidentielle d'Emmanuel Macron, une sorte de biographie, on le disait avant la pause. Emmanuel Macron, c'est un homme qui aime être seul, dirigé seul.
Oui, et pour cela, il se ménage en fait un espace de liberté, c'est-à-dire qu'il... Il n'a pas un gourou qui lui inspirerait ses décisions. On a pu avoir l'exemple, par exemple, de Nicolas Sarkozy, quand il y avait Patrick Buisson ou d'autres personnes. Ouais. Il y a des présidents qui se sont déjà mis un peu dans la main d'un conseiller plus influent que les autres. Dans le cas d'Emmanuel Macron, il y a Alexis Kohler, on va en parler, mais il y a quand même des entourages. C'est-à-dire que je ne parle pas d'un entourage, il y a des entourages. Et en fait, le dernier ressort de la décision, on est sous la Ve République, on est sous le quinquennat, il revient à lui seul. Et puis, ce qu'on souligne aussi dans le livre et ce qui ressort dans cette campagne, c'est la solitude auto-organisée du président. C'est-à-dire que vous n'avez pas vu émerger pendant ce premier quinquennat de poids lourds politiques autour de lui. La Macronie n'a pas donné des nouvelles personnalités politiques incontournables, à la fois dans la nomination de ses ministres, dans la désignation des candidats aux élections législatives. Il y a un écosystème dans lequel, en fait, Macron, au milieu, existe seul. Ouais. Et tout tient autour de lui. Et par exemple, si aujourd'hui on voulait trouver un successeur évident à Emmanuel Macron, bah on ne le trouverait pas. Et d'ailleurs, dans sa tête, ça n'existe pas non plus. Parce qu'il s'est entendu, il s'est fait élire deux fois président de la République, mais il n'a pas développé un mouvement qui fasse émerger d'autres personnalités, d'autres poids lourds incontournables. Tout revient à lui. Et d'ailleurs, consigne, et ça on le révèle dans le livre, dès le début de la campagne, consigne avait été passée de ne faire aucun déplacement avec des ministres. C'est-à-dire que les ministres faisaient des meetings là où Emmanuel Macron ne pouvait pas se déplacer, mais quand le président candidat allait quelque part, aucun ministre autour de lui. Aucun.
Est-ce que ce trait de caractère n'a pas un peu tendu l'atmosphère entre lui et Édouard Philippe au début du quinquennat ?
Bien sûr que si.
Ça ressort beaucoup, ça aussi, dans votre livre. Ces tensions, elles sont réelles.
Ouais, énormément. Et d'ailleurs, on revient un petit peu en arrière parce que... On dit beaucoup qu'Emmanuel Macron a congédié Édouard Philippe parce qu'il ne supportait pas qu'il prenne trop de lumière, notamment à l'issue des confinements. C'est vrai, mais ça ne date pas seulement de la crise sanitaire. Ouais. En fait, Emmanuel Macron, après la crise des Gilets jaunes, voulait mettre en place une nouvelle méthode, le fameux acte 2 du quinquennat. Et ce qui l'a agacé, c'est qu'en fait, il ne voyait pas de changement arriver chez Édouard Philippe. Je prends un seul exemple, la suppression de l'ENA. Emmanuel Macron l'annonce après les Gilets jaunes parce qu'il se rend compte que l'ENA cristallise beaucoup de tensions dans le pays, beaucoup de critiques qui remontent à l'encontre des élites. Et Édouard Philippe, qui est énarque comme Emmanuel Macron, ne veut pas du tout mettre en place cette réforme de la haute fonction publique et cette suppression de l'ENA. Et ça fait partie des blocages qui ont insupporté Emmanuel Macron. Et en fait, il s'est retrouvé empêché. C'est-à-dire qu'il pensait que Édouard Philippe et son entourage assez technocrate, empêcher en fait cette nouvelle méthode de se mettre en place. Et on a senti d'ailleurs un Macron assez libéré quand il a changé de Premier ministre et a pris Jean Castex, qui lui n'avait aucune ambition pour la suite.
Édouard Philippe a mis du temps aussi à participer à la campagne présidentielle. Alexandre Chauveau.
Oui, sur le côté jupitérien, il y a des citations assez frappantes. Vous écrivez « Au pouvoir, Emmanuel Macron ne tolère pas qu'on lui fasse de l'ombre. Lui seul doit briller. » À propos de son grand meeting à l'Arena de la Défense, par exemple, où il est le seul à parler, vous dites que c'est la confirmation éclatante que le macronisme n'est pas un collectif. Dernière citation, celle de François Patria, sénateur de la Côte d'Or, qui est un proche de Macron. Il est seul, certes, mais est-ce que Dieu n'est pas seul ? Est-ce que finalement le chantre du Nouveau Monde, celui qui a intitulé son livre Révolution en 2017, n'est pas l'incarnation même de la République monarchique qui est la Ve République voulue par De Gaulle ?
Bah bien sûr, il s'est glissé lui aussi avec aisance dans les habits gaulliens du président de la Ve République. Alors, les institutions sont comme ça. Et d'ailleurs, Emmanuel Macron, avant de prendre le pouvoir, quand il explique que le président doit être jupitérien, bah, il théorise lui-même cette verticalité. Il est très important de comprendre dans la psychologie d'Emmanuel Macron le traumatisme qu'a été pour lui le quinquennat Hollande, quand il était d'abord conseiller à l'Élysée, puis ministre de l'économie. Il voyait de très près toutes les erreurs de François Hollande, toute la façon dont il a perdu la confiance des Français et dont il n'a même pas pu se représenter. Et c'est pour ça qu'il s'est donné un anti-exemple de François Hollande, en fait. Donc, la verticalité, les réformes à marche forcée au début de son premier mandat, le fait de ne pas vouloir s'enfermer dans un appareil partisan, de négliger, ou en tout cas faire mine de négliger les affaires partisanes et de contrôler tout seul, et ben ça lui vient de cette expérience et de ces traumatismes. Après, le problème, ça a été le choc du réel, c'est-à-dire les gilets jaunes, accumulation de plein de rancœurs dans le pays qui ne remonte pas seulement au quinquennat Macron, mais qui lui a explosé en pleine figure. Et c'est pour ça qu'il a dû remettre en cause sa méthode jupitérienne. Mais au fond, c'est ce que je disais tout à l'heure, l'homme reste le même. On peut changer les méthodes, mais l'homme reste le même. Et je pense que son mode de fonctionnement qu'on décrypte dans ce livre restera en grande partie le même sous ce nouveau quinquennat.
Sur ce côté jupitérien, il y a un chapitre qui est intéressant, intitulé « Cambriolage sur les débauchages d'Emmanuel Macron ». Vous racontez notamment comment il arrive depuis plus d'un an à convaincre Éric Woerth de le rejoindre au milieu de la campagne. On apprend aussi qu'il a pensé à deux reprises à nommer Xavier Bertrand Premier ministre et qu'il teste ses opposants. Vous révélez par exemple que par l'intermédiaire de l'académicien François Sureau, qui est un proche d'Emmanuel Macron, il teste au Sénat le patron des sénateurs et des Républicains, Bruno Retailleau, pour savoir s'il accepterait d'être ministre de l'Intérieur. Vous dites, ces manœuvres sont politiquement et humainement machiavéliques, à la limite de la perfidie. Est-ce qu'il y a un côté pervers chez Emmanuel Macron?
Alors, on n'a pas mis pervers, parce que le mot est très fort quand
charmeur.
Même. Mais alors, c'est entre le charme et le machiavélisme, quoi. C'est-à-dire que c'est quelqu'un, Emmanuel Macron, qui aime séduire, c'est vrai, qui aime séduire politiquement. Et en fait, il y a quand même un côté jeu de dupes dans ses démarches. C'est-à-dire que quand il avalise le fait que François Sureau, l'écrivain François Sureau, sonde Bruno Retailleau pour un éventuel poste au ministère de l'Intérieur après le départ de Gérard Collomb, un départ surprise, et donc Emmanuel Macron cherche désespérément un ministre de l'Intérieur qui tienne la route à ce moment-là, effectivement, François Sureau se rend au Sénat et montre un message d'Emmanuel Macron où il lui dit « bah oui, teste-le, teste Retailleau pour voir ». Alors Retailleau n'a pas donné suite parce que lui considère que le macronisme et lui, ça fait vraiment deux et qu'il n'est pas soluble là-dedans. Mais le mot de l'histoire qu'on n'a pas, c'est évidemment ce qui se passe dans la tête d'Emmanuel Macron à ce moment-là, c'est est-ce qu'il est sincère quand il fait ce type de démarche ou est-ce que c'est vraiment pour continuer à jouer avec la droite, fracturer son camp, semer le trouble, ce qu'il a fait quand même en envoyant des émissaires à droite. C'est-à-dire qu'il a joué au Tullius Détritus, d'abord de la gauche, ça c'était en 2016-2017, puis ensuite pendant son quinquennat de la droite. Et on le voit avec des ralliements comme celui d'Éric Woerth, comme celui de Christian Estrosi, de Renaud Muselier, de Baron de la droite, que tout son quinquennat était une histoire de cambriolage. Tous n'ont pas réussi, loin de là. Il y a beaucoup de gens qui ont résisté au macronisme à gauche comme à droite, mais ce genre de démarche lui permet de semer le trou, même s'il n'est pas forcément sincère.
Alors, il y a un personnage de la droite centrale hein, qui revient à peu près toutes les 10 pages dans L'étrange victoire, c'est Nicolas Sarkozy. Oui. Est-ce qu'il a réussi à être amadoué par Emmanuel Macron?
Alors, en fait, ils se servent l'un de l'autre, Sarkozy et Macron.
Vous voyez comme ça?
Tout à fait. Et d'ailleurs, on raconte...
Ils se consultent beaucoup, ils
s'appellent
tout
beaucoup.
Le temps.
Oui, beaucoup. On raconte cet épisode, d'ailleurs, dans le début du livre, où on a Sarkozy qui patiente dans un salon de l'Élysée parce que il dit à Emmanuel Macron, après le déclenchement de la guerre en Ukraine, mais il faut que tu ailles sur place, il faut que tu fasses comme moi j'ai fait à l'époque où Poutine a envahi la Géorgie, où ouais. Sarkozy s'était précipité sur place et avait pu mettre en scène sa participation.
Alors, tout le monde lui disait de ne pas y aller à
l'époque.
Signature, 2008,
ouais. Oui, c'est vrai, c'était beaucoup contre l'avis de ses conseillers. Emmanuel Macron ne l'a finalement pas fait, même s'il l'a envisagé pendant toute sa campagne, d'aller à Kiev notamment. Ça a été latent pendant toute sa campagne. Sarkozy et Macron, c'est une drôle de relation. C'est-à-dire que déjà, avoir été président, ça rapproche, hein, forcément. C'est arrivé à peu de monde.
Oui, et puis, mais il n'a pas cette relation avec François Hollande.
Ah, pas du tout.
Dont il a été le ministre,
pas
Emmanuel
du tout.
Macron.
Parce qu'il l'a trahi. Contrairement à Sarkozy, ça peut laisser des traces entre deux personnalités politique. Mais quand je dis que Macron et Sarkozy, et quand on l'écrit avec Agathe Lambret, qu'ils ont ce type de relation, ils se servent l'un de l'autre. Pas Sarkozy pour exister en tant qu'ancien président, c'est-à-dire qu'Emmanuel Macron lui fait montre de plein de marques de respect, d'affection républicaine.
Il aime ça.
Et Nicolas Sarkozy, il est un seul exemple. Si vous ne l'appelez pas Monsieur le Président, Nicolas Sarkozy, il vous répond pas.
Il lui envoie notamment des SMS pour son anniversaire ou pour lui fêter
toujours. C'est-à-dire qu'il est omniprésent dans ce type de marque d'affection.
On peut se poser la question à la lumière des premières semaines du second quinquennat. Je pense notamment à la nomination d'Elisabeth Borne, à la nomination de Pape Ndiaye à l'Éducation nationale, à ses différents déplacements sur des terres mélenchonistes. Hier, il était à Clichy-sous-Bois. Il a été à Marseille pendant l'entre-deux-tours. Il y est retourné depuis sa réélection. Est-ce que finalement Emmanuel Macron ne s'est pas servi de Nicolas Sarkozy?
C'était justement, j'allais vous le dire, ce qu'on écrit avec Agathe Lambret, c'est que Sarkozy conseille beaucoup Emmanuel Macron, mais Emmanuel Macron écoute très peu Nicolas Sarkozy. Ou plutôt, il l'entend, mais il ne l'écoute pas. Donc, il y a beaucoup de conseils de Sarkozy qui restent lettre morte. Il lui avait notamment suggéré le nom de Christine Lagarde pour Matignon. Mais Emmanuel Macron,
Catherine Vautrin aussi.
Pas qu'il, oui, aussi, bien sûr, il a pesé là-dessus. Et en fait, Emmanuel Macron écoute assez rarement, suit assez rarement les conseils de Nicolas Sarkozy. Mais tisser ce lien avec son ancien président, bah, ça permet déjà à ce que Sarkozy ne soit pas un nuisible pour lui, c'est-à-dire qu'il ne se serve pas d'un éventuel pouvoir de nuisance contre lui. Et puis, il a pu déposséder Valérie Pécresse, une adversaire que Macron redoutait beaucoup au départ de la campagne quand même, quand elle a été désignée. Ça lui a permis de déposséder Valérie Pécresse d'un soutien. Et on a vu à quel point Sarkozy a fait cruellement défaut.
Oh, allez, je ne cite pas parce que c'est trop vulgaire ce que vous écrivez.
Oui, il y a des phrases de Nicolas Sarkozy qui peut être très très cash en privé à l'égard de Valérie Pécresse dans le livre. Voilà, je laisse les
Il donne une interview au Figaro Magazine d'ailleurs ce week-end.
Tout à fait.
Bon, mais merci à vous deux. Restez avec nous. Hein. Merci parce qu'on va, parler maintenant de plus se projeter. On a évoqué la campagne, la réélection va se projeter sur le quinquennat, cette première échéance électorale, les élections législatives. Dans une dernière partie, on attend vos questions. Allez-vous voter dimanche 39-21. A tout de suite sur Europe 1.
Europe Midi. Raphaël Delvolvé.
De retour sur Europe 1, nous sommes avec Louis Osalter qui publie L'étrange victoire avec sa consœur de BFM TV, Agathe Lambret. L'étrange victoire ou le récit de la campagne victorieuse d'Emmanuel Macron. Nous sommes avec Alexandre Chauveau du service politique d'Europe 1 également. Alors, on a parlé maintenant de la campagne présidentielle. Vous le précisez d'ailleurs dans votre livre, Emmanuel Macron était élu et bien élu, 58% au second tour. C'est une victoire sans enthousiasme et maintenant une première échéance électorale qui arrive très vite. C'est dimanche, le premier tour des élections législatives. Si on a bien lu la presse cette semaine, on parle de doute au sein de la Macronie. On doute que la Confédération Ensemble obtienne la majorité absolue au Parlement. Est-ce que c'est vrai ?
Oui, il y a un doute. Et d'ailleurs, l'histoire se répète parce qu'avant le premier tour de la présidentielle, il y a aussi un moment de panique dans la dernière semaine en Macronie. Alors qu'il n'a pas touché le président lui-même, qui est de nature plutôt optimiste et qui a plutôt tendance à dire à ses troupes « mais pas du tout, il faut se battre, il n'y a aucune raison qu'on fasse un mauvais score ».
Et d'ailleurs,
ne pas subir, c'est son grand mot, c'est « il ne faut pas subir ». Et là, c'est vrai, il y a le risque de subir. C'est-à-dire qu'avec la campagne active qu'a fait Jean-Luc Mélenchon avec la NUP, Emmanuel Macron s'est retrouvé un petit peu acculé. En plus, le poids des événements, c'est-à-dire que le Stade de France, c'est quand même une catastrophe pour lui en termes d'image et de gestion d'ordre public. Et donc, on a vu, un peu comme à la présidentielle, un président arriver très tard en campagne avec son discours d'hier où il appelle les Français à lui donner une majorité claire. Et peut-être, en fonction des résultats du premier tour dimanche soir, qu'on verra à nouveau un Macron très actif dans l'entre-deux-tours, comme il avait été très actif dans l'entre-deux-tours de la présidentielle.
Alexandre Chauveau, on s'active du côté de la Macronie.
Oui, je rejoins Louis sur ce qui vient d'être dit. En revanche, on peut peut-être s'interroger sur la sincérité des doutes au sein de la Macronie.
Oui.
On peut aussi penser que c'est orchestré justement pour agiter, comme il avait agité pendant la présidentielle et pendant l'entre-deux-tours, et à la fin du premier tour, la menace de Marine Le Pen. Là, il agite la menace de Jean-Luc Mélenchon, à qui il a laissé tout l'espace politique et médiatique depuis sa réélection. Il a disparu complètement des radars. Et exactement comme ce qui vient d'être dit, comme à la présidentielle, la dernière semaine, il ressort du bois. Les deux dernières semaines, il a fait des déplacements à Cherbourg sur la santé, sur l'éducation à Marseille avec Pape Ndiaye. Cette semaine, il allait sur des terres mélenchonistes, à Clichy-sous-Bois notamment pour parler de la jeunesse. Il était dans le Tarn hier aux côtés des forces de l'ordre pour un petit peu essayer de rattraper cette image de chaos qui a suivi les événements du Stade de France.
Donc, il réaffirmer son soutien à la police, oui.
Exactement.
Comme pour marquer sa différence claire avec la gauche.
Et comme Valéry Giscard d'Estaing en 78, il a demandé une majorité forte aux Français. Moi, je pense qu'il aura sa majorité. Est-ce qu'elle sera absolue ou pas ? Moi, je pense qu'elle le sera. Ouais. La question, c'est de savoir, est-ce qu'il devra composer avec le Modem, qui est plutôt acquis à sa cause ? Est-ce qu'il devra composer avec Horizon ou avec une partie DLR ? Ça, c'est tout l'enjeu pour Emmanuel Macron.
Et puis, n'oublions pas une donnée centrale, la participation. Les sondages nous prédisent une abstention record entre 52 et 56%. Nous sommes avec Fessal, qui, lui, va voter. Bonjour, Fessal.
Bonjour.
Alors, vous habitez Lille et vous êtes mentor, un jeune, une solution. Et vous allez voter dimanche. C'est extrêmement important pour vous, c'est bien ça ?
Tout à fait. Voter, c'est important. Voter, c'est un acte citoyen. Voter, ça permet aussi de garantir sa citoyenneté. C'est important aussi, selon moi, de donner une majorité présidentielle pour pouvoir appliquer un programme. Aujourd'hui, alors après, c'est des convictions politiques, mais aujourd'hui, voter pour cette association NUPES, hein, qui est un regroupant un peu des partis de gauche, ouais. Je ne voterai absolument pas pour eux.
Ça vous motive encore plus à aller voter, ça ?
Écoutez, ça motive encore et plus à aller voter quand je vois certaines positions de Jean-Luc Mélenchon sur la police, sur effectivement la question identitaire, parce que Jean-Luc Mélenchon a toujours tendance à brosser parfois les personnes de confession musulmane, les Français de confession musulmane pour aller voter. Moi, ouais. Ça me pose problème parce que c'est pas comme ça que je conçois la démocratie, ce n'est pas comme ça comment je conçois la République. Et pour tout ça, je pense qu'il faut aussi une continuité également dans nos politiques publiques. Et pour moi, mon choix sera Emmanuel Macron, en tout cas le parti présidentiel.
Merci Faisal. Louis aux haltères, Jean-Luc Mélenchon, depuis le lendemain du second tour de la présidentielle, occupe l'espace médiatique, les négociations pour la constitution de la NUP, on en a beaucoup parlé, il a enchaîné les déclarations fracassantes sur Twitter la semaine dernière quand il a dit la police tue, ça a fini par faire peur un peu aux électeurs ça.
Oui, Emmanuel Macron en fait a agité un épouvantail, il fait campagne comme ça, sauf que l'épouvantail a changé depuis un mois et demi, c'est-à-dire que c'était Marine Le Pen, à laquelle d'ailleurs il essayait d'associer l'image d'Éric Zemmour, pendant l'élection présidentielle où il mettait en scène un match entre lui et Marine Le Pen. Il y a d'ailleurs assez peu douté en fait dans la campagne que ce serait son adversaire, en tout cas dans les derniers mois. Et là, il agit toujours en épouvantail. Le problème, c'est que l'épouvantail a changé. Et que donc, si on ressort les déclarations d'Emmanuel Macron dans l'entre-deux-tours de la présidentielle, où il multiplie les clins d'œil aux électeurs de Jean-Luc Mélenchon.
Alors qu'il a été élu avec une grande partie des voix des électeurs de droite.
Des voix de droite. Et dans l'entre-tour de la présidentielle, il va jusqu'à parler de planification écologique, reprenant mot pour mot les termes du programme mélenchoniste. Et là, c'est tout l'inverse. C'est-à-dire, il met en scène son duel avec Mélenchon, agité comme un épouvantail. Et la grande absente quand même de toute cette séquence électorale, c'est Marine Le Pen, qui a disparu au lendemain de sa défaite. On n'a plus de nouvelles. Qui a réapparu, mais qui n'est pas non plus dans une campagne très active et qui a surtout acté dans des déclarations assez tôt que, de toute façon, Emmanuel Macron aurait une majorité, qu'il n'avait pas grand-chose à gagner et que ce mode de scrutin n'était pas très favorable au Rassemblement national. Alors c'est vrai, est-ce que c'est une raison pour ne pas se battre du tout et ne pas essayer d'aller gratter plus de députés qu'elle n'en a ? Actuellement, elle en a très peu. C'est quand même assez curieux la façon dont l'adversaire, celle qui est arrivée au second tour de l'élection présidentielle, qui a rassemblé 13 millions de voix, ce qui est son record à ce second tour, n'est quasiment pas pris part à cette bataille des élections législatives.
Parole d'électeur avec Stéphane qui habite Versailles. Bonjour Stéphane.
Bonjour, bonjour à tous.
Alors vous aussi, vous allez voter dimanche, hein ?
Alors moi je vais voter, mais franchement je suis atterré qu'il n'y ait pas eu de débat présidentiel, atterré qu'il n'y ait pas eu de programme, qu'il n'y ait pas eu de projet pour les législatives, en tout cas du côté de la majorité macroniste. Donc j'ai un peu le sentiment qu'il va falloir que ces élections indiquent au président dans quelle direction il va falloir aller. Et je trouve ça atterrant. Alors si jamais le président se moque de nous puisqu'il n'a pas présenté de programme, si les candidats législatifs ne présentent pas de programme, alors il va falloir que nous allions voter pour aller lui indiquer dans quelle direction on veut. Donc ça va être très intéressant de voir si c'est le camp extrême-gauche NUPES qui lui donne la direction, la boussole, ou si c'est le camp républicain, mais plutôt même national-patriote, qui lui indique un recadrage au niveau de sa politique. Je suis à la fois atterré, mais je trouve que c'est intéressant que les Français, justement, ont une importance. C'est vraiment très important d'aller voter, justement, pour indiquer ça. Mais je suis quand même navré de ne pas connaître du tout le projet présidentiel, ni pendant les présidentielles, ni même pendant les législatives. Voilà ce que je voulais dire.
Merci d'avoir alimenté notre discussion, Stéphane. Alexandre Chauveau, vous voyez, il peut y avoir un vote sanction aussi. Hein.
Oui, sur l'absence de projet, il y a beaucoup de Français qui le partagent. Pourtant, Emmanuel Macron a été réélu, on l'a dit assez clairement. On sait qu'il est très rapidement, il va y avoir une loi pouvoir d'achat qui va être présentée après les législatives, qui sert aussi un petit peu caresser dans le sens du poil. Enfin, je mets ça entre guillemets, mais l'électorat de gauche, justement pour faire barrage aussi à la NUPES et la Nouvelle Union Populaire de Jean-Luc Mélenchon. On voit que l'un et l'autre se font presque la courte échelle, ils sont complices l'un l'autre. Les duels entre la NUPES et la majorité présidentielle, ça devrait être la plupart des duels, enfin en tout cas la grande majorité des duels, on l'a vu notamment chez les Français de l'étranger. Attention à la douche froide au second tour pour Jean-Luc Mélenchon, parce qu'il aura sans doute beaucoup de candidats en tête ou en tout cas qualifiés au second tour, mais qui derrière pourraient perdre avec le vote utile.
Merci Alexandre Chauveau du service politique d'Europe 1. Merci Louis Osalter, auteur de L'étrange victoire aux éditions de l'Observatoire. C'est co-signé avec Agathe Lambret de BFM TV. Merci d'avoir été avec nous dans Europe Midi. Je vous rappelle la principale information du journal. Un accord de principe a été trouvé entre Zinedine Zidane et le Paris Saint-Germain. Bon après-midi sur Europe 1. Dans quelques instants, vous avez rendez-vous avec Elisabeth Assayag pour La France Bouge.
Merci Raphaël Devolvé. Bon week-end à vous.